Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette émission Au fil des pages, nous poursuivons notre réflexion autour des points communs entre la langue française et la langue arabe avec Henriette Walter, qui est linguiste et professeure honoraire de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne. Mais nous avons déjà fait une première émission que vous trouvez dans notre médiathèque au sujet de son livre et des langues sémitiques dont fait partie l'arabe. Aujourd'hui, nous parlons de l'expansion de l'islam et de la langue arabe. Car il ne faut pas, Henriette Walter, confondre les deux. Mais comment est né l'arabe ? Alors, rappelez-nous
les premières attestations que l'on ait. Ce sont des attestations sur des os de chameaux, sur des choses de ce genre-là. On pense que donc c'était une langue qui était parlée par des nomades, par des bédouins, dans la péninsule arabique, avant, disons, au 5e siècle. Vers 5e, 6e siècle. Là, on a des traces écrites qui nous permettent de retrouver ça. Alors, que se passait-il avec ces bédouins ? C'était des bédouins qui, en même temps, traversaient les déserts avec leurs caravanes, avec leurs marchandises. Ils se réunissaient une fois par an pour échanger leurs marchandises. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est le plus intéressant pour nous, linguistes, c'est que tous les ans, il y avait un grand concours de poésie entre tous ces bédouins, et que lorsque, après avoir dit quel était le premier prix, disons, eh bien ce poème était inscrit en lettres d'or sur un très joli tissu noir, un tissu que l'on retrouve encore aujourd'hui sur la Kaaba. La Kaaba étant cette construction un petit peu bizarre et parallélépipédique.
Cette construction un petit peu bizarre,
qui est plus ou moins cubique, nous dirons, qui est au milieu de la mosquée de la Mecque et autour duquel les pèlerins tournent. Vous savez, on le connaît bien. Eh bien, ces poèmes, on les appelait les suspendus, parce que justement, on les suspendait tous les ans. Le plus beau était suspendu.
Ils étaient brodés en fil d'or sur un tissu noir.
Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement ancien et qui a marqué probablement dans l'esprit des gens qui parlent l'arabe. Pour eux, la langue arabe, c'est d'abord de la poésie. Et ensuite seulement, c'est de la pensée ou c'est exprimer des choses intellectuelles, etc. Mais d'abord, les sentiments, d'abord la musique, avant de penser à la rationalité. Donc ça, peut-être qu'il faut le savoir, parce qu'on comprendra à ce moment-là pourquoi les arabesques, pourquoi la calligraphie, enfin, tout ça, c'est lié.
C'est lié donc à cette histoire où, en effet, on commençait à faire des concours de poésie dans ces tribus. Alors, dommage qu'il n'y ait pas eu la radio, parce que ça aurait été très joli. On devrait continuer à faire des concours de poésie,
Mais d'ailleurs. Oui, eux continuent, et puis nous-mêmes, nous continuons de temps en temps, mais nous en avons un petit peu moins.
Racontez-nous d'abord, rappelez-nous brièvement, Henriette Walter, les principales étapes de l'expansion musulmane.
Au 6e siècle, donc au 6e siècle, rien du tout, si j'ose dire, pas d'expansion, ça reste dans la péninsule arabique. L'histoire de Mahomet, je vous en donnerai un tout petit bout peut-être tout à l'heure. Et puis à partir de la mort de Mahomet, 632, il y a une expansion assez extraordinaire, car en deux siècles, l'islam s'est répandu jusqu'à l'Atlantique et jusqu'à l'Indus. C'est-à-dire que ça a couvert une surface énorme. Et la langue arabe n'est venue que par-dessus le marché, disons. Ce qui s'est produit, c'est que, peut-être un mot de Mahomet, on dit que, c'est aussi un petit peu légendaire, plus ou moins légendaire, mais quand même, il y a un fond. Mahomet aurait entendu l'archange Gabriel lui dire « écris » ou « dis » ou « lis ». Alors, c'est pourquoi peut-être, étant donné, il y a eu ce Coran qui signifie ce qui est dit, ce qui est lu, ce qui est raconté, ce qui est révélé. Mmh. Et donc, ces édits que l'on a appelé donc des sourates en arabe, n'est-ce pas ? Ce sont des, il y a des chapitres et des sourates. Ces sourates ont été dites et répétées oralement au cours des siècles qui ont suivi, et encore aujourd'hui, dans les écoles coraniques, il est question toujours de réciter.
De réciter par cœur.
C'est
très bon pour la mémoire.
Et voilà, c'est très bon. Et il est intéressant aussi de dire que, encore aujourd'hui, dans des régions où on n'a pas vraiment acquis l'arabe, on n'a pas adopté la langue arabe, mais on a gardé, par exemple, le sanskrit, les prakrites, c'est-à-dire des langues populaires issues du sanskrit, eh bien, dans ces régions où on est musulman, eh bien, on connaît bien les sourates du Coran, même sans les comprendre. Ça nous rappelle un petit peu les prières en latin, où on ne comprenait pas, mais où c'était joli.
Finalement, ça n'empêche pas de prier, finalement.
Exactement. Voilà. Voilà. Donc, il y a ces conquêtes, disons, qui commencent à se faire avec immédiatement ce texte auquel il faut toujours se référer et qui est donc le Coran, qui d'abord est transmis oralement. Il y a eu très vite, au siècle suivant, des grammairiens, des phonéticiens. Il y a un phonéticien qui s'appelle Sibawé, qui a été un grand précurseur de la phonétique. C'est-à-dire que grâce à lui, nous savons comment on prononçait presque du temps de Mahomet. Un peu plus tard, bien sûr.
On regarde l'histoire peu de temps après.
Donc, on peut ainsi comparer cette langue très, très ancienne aux variétés de l'arabe qui se sont développées plus tard.
Dans votre livre, Henriette Walter, Arabesque, l'aventure de la langue arabe en Occident, écrit conjointement avec Bassam Barakeh, qui est professeur d'université à Beyrouth, il y a une carte, en effet, qui montre l'expansion musulmane. Donc, c'est à la fois l'expansion de la religion, mais pas forcément de la langue.
Et voilà pourquoi il y a eu tellement d'évolutions différentes selon. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça a commencé avec la Syrie, la Palestine, la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak actuel, entre les deux fleuves, Mésopotamos, la Perse, l'Égypte, l'Arménie, etc. Et puis ensuite, il y a eu Damas qui est devenue la capitale de l'Empire. Parce qu'il faut savoir que cet Empire a changé de capitale. Et que lorsque ça changeait de capitale, ça changeait un tout petit peu de normes pour la langue. Donc pour nous, c'est important aussi de le dire. Donc là, on a la dynastie des Omeyyades jusqu'au milieu du 8e siècle à peu près. Avec comme capitale la ville de Damas. Et puis, à partir du milieu du 8e siècle, ça a été la dynastie des Abbassides et c'est Bagdad qui prend la place de Damas.
Très bien.
Bien. Et c'est à ce moment-là que nous voyons arriver, plus près de nous, ces Arabes qui arrivent en Espagne. Et donc, on a la prise de Cordoue, par exemple, en 756, puis l'occupation du Maroc et l'occupation de la Sicile. Peut-être que tout à l'heure, on pourra s'y arrêter un tout petit peu, parce que c'est important pour nous.
Très bien, c'est noté. Pour
l'arrivée de l'arabe dans nos langues.
Bien. Donc, ils vont d'un côté vers l'Occident et en même temps vers l'Orient.
Vers l'Orient.
Parce que ça monte jusqu'à Tachkent, Samarkand, Kaboul, évidemment, l'Afghanistan actuel.
Et donc, au Xe siècle, les califes arabes perdent le pouvoir et arrivent les Perses et les Turcs. Et là, on a tout à fait autre chose. La langue turque n'est pas une langue sémitique, c'est une autre langue. Autrement dit, les choses sont prises en main par des gens qui ne parlent pas l'arabe. Mais attention, les Turcs n'ont pas adopté la langue arabe, mais ils ont adopté l'islam.
C'est la religion, voilà. Et je crois qu'il faut bien le préciser parce que c'est tout à fait important.
Là, c'est très important de montrer que l'islam ne se confond pas avec arabophonie. Voilà ce qu'il faut dire.
Hein. On peut tous être les musulmans. Arabe, arabophone ou musulman. C'est pas la même chose.
Alors, il faut se rappeler, musulman, ça veut dire qu'on a adopté l'islam, la religion musulmane. Arabophone, ça veut dire qu'on parle arabe. Mais par exemple, les Turcs sont musulmans, mais ils ne parlent pas l'arabe. Les Perses, les Iraniens ont adopté également l'islam, mais parlent persan. Or, le persan, c'est une langue comme les nôtres, c'est une langue indo-européenne, donc rien à voir.
Ce n'est pas sémitique non plus.
Ça n'est pas sémitique non plus. Et puis, mais alors il y a une petite évolution qui s'est faite, peut-être qu'on en dira quelque chose un petit peu plus tard, c'est sur l'écriture, la façon d'écrire. C'est-à-dire que l'écriture arabe a été adoptée par les Iraniens, n'est-ce pas ? En Iran, on écrit avec la graphie arabe. Ça a été adopté également par les Turcs jusqu'en 1928, date à laquelle ils ont abandonné l'écriture arabe pour utiliser l'écriture latine. Donc, vous voyez,
C'est un peu compliqué, tout de même.
Alors, on voit bien, les Turcs parlaient une autre langue qu'une langue sémitique. C'était pas bon pour leur langue d'écrire avec un alphabet qui était fait pour une langue sémitique.
Mais oui, bien sûr.
C'était pas bon, ça n'était pas bien adapté.
C'était pas ajusté.
Donc, Atatürk a décidé que ce serait avec l'alphabet latin. Et c'est bien meilleur maintenant. Tandis que en Iran, c'est resté avec l'écriture arabe.
Alors, mais aussi la langue arabe, il y a aussi des grands dialectes, je crois, parce qu'il y a quand même des grandes zones différentes.
Voilà.
On ne parle pas le même arabe partout.
Voilà, comme vous disiez tout à l'heure, on parlait une autre langue. C'est-à-dire que quand on se répand sur des surfaces aussi grandes, sur des territoires aussi grands, on se rend bien compte que les gens qui étaient là parlaient d'autres langues précédemment. Donc, ils ont appris l'arabe par religion, par désir de dire le Coran. De dire le Coran, mais leur langue est restée très longtemps leur propre langue. C'est-à-dire qu'ils ont été des bilingues. Or, comme vous savez, quand on est bilingue, on utilise quelquefois des prononciations ou des formes syntaxiques ou des mots de la langue précédente. Et donc, on influence cette langue qui arrive. C'est ce qui s'est produit avec les Romains. Lorsque les Romains se sont répandus, eh bien, le latin s'est transformé. Il s'est transformé ultérieurement
en plusieurs,
en français, en italien, oui, en espagnol, etc., en frioulan, dont on parlait l'autre fois. Voilà. Donc, cette langue a beaucoup évolué, mais elle a évolué différemment selon que l'on est... On peut faire une grande coupure, disons, pour simplifier les choses, entre l'Est et l'Ouest. L'Ouest, c'est le Maghreb, c'est ce qu'on appelle le Maghreb. Qu'est-ce que ça signifie, le Maghreb, en arabe ? Ça signifie ce qui est à l'Ouest. Et on distingue, donc, entre le Maghreb, qui est à l'Ouest, et le Mashrek, qui est à l'Est. Mashrek signifiant à l'Est.
Et qui couvre tous les autres pays. Au-delà du Moyen-Orient.
Au-delà. Exact, même plus, on peut dire que le partage se fait au milieu de la Libye. Mm-hmm. Vous voyez, la Libye pourrait, à l'ouest du milieu de la Libye, on aurait la langue différente. Je vais dire pourquoi c'est différent. Et puis à l'est, le Mashrek qui est bien différent. Alors, quelles sont les différences ? Eh bien, il faut savoir que à l'est, la langue est restée plus proche de l'arabe classique. C'est-à-dire que on a gardé beaucoup de syllabes inaccentuées. En arabe, il y avait une syllabe accentuée par mot, disons, un petit peu comme en anglais ou en allemand, oui. Vous voyez, ou en italien, en espagnol, etc. Pas comme en français où nous avons perdu cette place obligatoire de l'accent. Donc, et il y avait des syllabes inaccentuées. Ces syllabes inaccentuées n'ont pas disparu de la prononciation à l'est. Mais à l'ouest, les gens parlaient des langues complètement différentes précédemment. Et cet accent d'intensité sur une syllabe a fait que les syllabes inaccentuées ne se sont plus entendues. Autrement dit, on les a avalées. On a, par exemple, trois syllabes dans l'est pour le même mot, pour deux syllabes dans l'ouest. Ou bien deux syllabes dans l'est pour une syllabe dans l'ouest. Autrement dit,
ça a diminué,
vous voyez que
on peut parler plus vite.
On parle beaucoup plus vite. Si vous voulez une comparaison, c'est la même comparaison qu'on peut faire entre l'italien et le français. En italien, il y a des tas de mots qui ont deux syllabes en italien, mais une seule en français. Hein, prenez le mot vert en français, verso en italien, verde, etc. Donc, en plus, on a tellement raccourci que notre langue française est devenue la langue des calembours par excellence, puisqu'on a en italien des mots qui se distinguent par la prononciation parce qu'on a ces deux syllabes qui se sont maintenues, tandis que nous, c'est devenu une seule syllabe et qu'on peut jouer avec.
On ne peut plus distinguer le vert du vert du vert du vert. Voilà, c'est
voilà.
Ça.
Donc, exactement.
On a compris ce
et
que
c'est
vous
la même chose
expliquer.
Avec le point, etc. Bon, alors donc, c'est ça la différence, donc, entre le Maghreb et le Mashrek. Et moi, ce qui m'avait étonné, c'est qu'à l'École pratique des hautes études, où je faisais un séminaire, j'ai fait un séminaire pendant 36 ans, donc ça a été très long, j'avais des étudiants qui venaient de plusieurs pays arabophones. Et un jour, derrière moi, j'avais plusieurs étudiants d'Égypte, du Liban et du Maroc. Je les entends parler en français, se parler en français. Je me retourne et je leur dis, dites-moi, pourquoi vous parlez-vous en français? Ils m'ont dit, c'est beaucoup plus facile. Je dis, comment c'est plus facile? L'arabe, c'est plus facile pour vous. Ah non. Il faut vous dire, madame, que un Égyptien a du mal à comprendre un Marocain, mais qu'un Marocain a moins de mal à comprendre un Égyptien. Et c'est là qu'on m'a expliqué l'histoire des syllabes.
Voilà.
Vous comprenez? Quand il vous manque une syllabe, on ne comprend rien. Quand on vous en donne un petit peu plus, comme vous savez de toute façon un petit peu l'arabe plus classique qui est l'arabe du Coran.
Oui, c'est plus facile.
C'est plus facile. Voilà. Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents, mais c'est que c'est plus
c'est
facile.
C'est que la langue les aide un peu plus.
Voilà. Voilà, c'est ça.
Alors, Henriette Walter, pour terminer cette émission aujourd'hui, mais comme vous êtes intarissable, on en fera d'autres sur l'arabe. Une des originalités de la langue arabe, c'est qu'il y a des dictionnaires en grand nombre. Alors, pourquoi l'arabe a-t-il produit des dictionnaires?
Alors, justement, c'est-à-dire que, comme on voulait que...
On parle de l'arabe ancien, là.
Bien sûr, mais très tôt. C'est-à-dire qu'ils ont été les premiers à faire de vrais dictionnaires. Nous, notre premier dictionnaire date du XVIe siècle, il ne faut pas oublier ça. C'est assez incroyable.
Et en arabe? Et eux,
alors, en arabe, ça a commencé au IXe siècle. Et alors, des dictionnaires de tout genre. C'est-à-dire des dictionnaires un peu amusants pour nous. Hein, il y en a un, par exemple, qui s'appelle le dictionnaire de l'œil. Aïn en arabe, c'est l'œil, et avec cette consonne A qui commence. Vous voyez, on ne peut pas la prononcer en français, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais c'était considéré par son auteur comme la consonne la plus profonde. C'est-à-dire qu'on commençait par A, après on faisait Q, après on faisait Que, après on faisait H, etc. Et petit à petit, on arrivait vers le début de la bouche, du visage, disons. Donc, on partait du fond de la gorge et petit à petit, on allait vers le début. Et ça, bon, l'ordre, c'est un ordre phonétique et non pas intellectuel. Et puis, il y a eu d'autres choses. Il y en a eu qui ont fait ça par thème, de façon un petit peu encyclopédique. Et puis, il y en a eu qui ont fait des choses encore plus amusantes, qui étaient, on part d'un mot, et puis, par association d'idées, on va ailleurs. Un petit peu comme nous, quand nous jouons, quand les enfants J'en ai marre, marabout, bout de ficelle, celle de cheval, voilà. Et donc, alors, vous vous rendez compte de la difficulté pour trouver un mot dans un dictionnaire établi de cette manière-là, puisque, en fait, il faut entrer les associations d'idées de l'auteur. Parce que c'était particulier. Mais si vous voulez, peut-être que ça va avec ce côté amour de la poésie, amour
ludique
de...
Un peu ludique.
On joue avec la langue. Et s'ils ont fait beaucoup de dictionnaires, c'est surtout parce qu'ils ont voulu que se répande l'islam. Hein. C'était ça, la réalité.
Il y avait un côté utilitaire, ludique et utilitaire à la fois. Voilà, Henriette Walter, merci beaucoup pour cette émission consacrée à l'expansion de la langue arabe. Nous vous retrouverons dans une prochaine émission pour évoquer quelques grandes figures de cette langue arabe. Et je rappelle que votre ouvrage Arabesque, l'aventure de la langue arabe en Occident, écrit conjointement avec Bassam Baraké, est publié aux éditions Robert Laffont, édition du Temps. Merci.
Merci.